présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. François semble dormir profondément, les lèvres légèrement ouvertes. Puis, au bout d'un moment, François, il est temps de se lever. Le secoue un peu en lui donnant des coups d'épaule là où il a posé sa tête. François se réveille. Cliff trouve qu'il a l'air plus jeune encore comme ça au réveil. Il lui dit, il faut se lever, il est tard. François lui demande, il est quelle heure ? Et tu dis, je sais pas, il fait jour. François repose sa tête sur l'épaule de Cliff et lui dit, nous avons le temps. Cliff lui dit, non, je dois aller travailler. Pourquoi faire ? Cliff lui dit, comme ça, pour travailler ? François lui dit, Paris, c'est une idée de Judith. Oh. Cliff lui dit, non, de moi. Allez. On se lève.
Il donne un coup à François qui se soulève de mauvaise grâce. Cliff se lève.
Cliff voit que leurs chemises sont à terre. Il ne se souvient de rien. Après avoir préparé et pris leur petit déjeuner, Cliff le quitte. Il lui dit « Merci pour tout. » François lui dit « C'est rien. » À une autre fois, et Cliff le quitte.
La guerre s'enlise. C'était très dur. Les soldats ont des difficultés à s'adapter au climat. Et ces guerres qui se font d'une façon guerrière ne sont pas habituées. J'en ai fier
qu'on se batte mon libérateur.
Pour elle. D'un côté, on se bat pour la garder, de l'autre, pour la reprendre. La famille de Ned commence à détester la traite de Charles Pute. Mais Ned l'aime toujours et la défend. Il y a de plus en plus d'attentats, surtout dans les grandes villes comme Paris et Lyon. Les bombes explosent dans les rues, les magasins, les usines. On fait dérailler les trains, les avions sautent. La population est de plus en plus peur, n'ose plus sortir et aller dans les lieux publics. Magasins, salles de spectacle, cafés, restaurants. Les voitures explosent en stationnement. Et puis, de toute personne. À Paris, la tour Eiffel a pris feu, Notre-Dame aussi, en pleine messe. Explosion. A tué beaucoup de gens. Et il ne reste que des ruines. L'attentat était extrêmement meurtrier. À Lyon, le centre commercial de la Part-Dieu, des bombes ont explosé et créé la panique. Il y a eu de nombreux morts et blessés. Mais ce qui choque le monde entier, c'est que les musées ont été attaqués. Les églises. Les musées, les églises. Que des milliers de chefs d'œuvre ont été dégradés ou détruits. Comme la Joconde. La police est renforcée. Le plan visite pirate est en alerte. Mais il ne peut pas être de partout. Puis les terroristes se servent de plus en plus de bombes très perfectionnées, petites, maniables, qui portent dans des petites molettes ou sacs. C'est plat. Elles sont à base de neutrons. Et ceux qui portent la bombe, les bombes, sont des kamikazes. Ils savent qu'ils mourront avec. Ces bombes très perfectionnées, maniables, qui sont simples, efficaces, rapides et font de bonnes explosions, sont fabriquées par les usines de recyclage de déchets atomiques tremblants. Avec les déchets atomiques, ils créent des appareils à bombes ultra légères et petites qui vendent à des prix très raisonnables. Et cela, c'est pour cela que les déchets atomiques sont recyclés. C'est comme cela que les déchets atomiques sont recyclés et rapportent de l'argent. C'est revendu à n'importe qui, à ceux qui le demandent. Tremblant fait la guerre contre les intégristes, les terroristes, mais il leur vend aussi des bombes. Les affaires sont les affaires. Des tas de terroristes sillonnent la France avec des mallettes qui font exploser où ils veulent. La police, l'armée est débordée. Et ne peut tout surveiller à la fois, malgré l'aide des robots, des mutants, des chimères, des satellites espions. Les attentats continuent un peu partout. Mais ceci rapporte à Tremblant qui équipe l'armée, la police, les armes, mutants, chimères, etc. Beaulieu aussi fait des armes et des robots qui font fureur avant d'être vendus. Avant d'être fabriqués, ils sont déjà vendus. Passe. Cliff reprend sa vie et revoit Judith. Ne lui parle pas ce qui s'est passé avec François. La lapin se calme un peu. Paris la nuit, il y a le couvre-feu à cause des émeutes, des attentats et tout. La ville est encore plus lugubre que lorsqu'il y a des émeutes. Mais les émeutes continuent tout de même, mais dans le noir. Les attentats aussi. La ville ressemble de plus en plus à une ville en guerre. Des ruines, la misère. La nuit, les gens qui sortent amènent leurs torches pour pouvoir y voir s'il n'y a plus de lumière à cause du couvre-feu. N'a toujours pas de nouvelles de son fils. Elle se fait de plus en plus de soucis. Un jour, elle reçoit une invitation à une soirée. C'est une de ses vieilles connaissances qui l'invite. Elle n'a pas tellement envie d'y aller, mais c'est une amie. Alors, après avoir beaucoup hésité, elle décide d'y aller. Elle y va, habillée d'une robe toute simple. Cette soirée se passe dans une propriété près de la sienne. C'est la mère de Didier Dupin qui l'invite. Lorsqu'il y arrive, il y a déjà beaucoup de monde. Le parc est tout illuminé. Orchestre, serveur, buffet. Didier la voit approcher. Il va à elle et lui dit : merci d'être venu. Ma mère sera très heureuse de vous voir. Vous ne venez jamais la voir. Elle lui dit : je vous remercie, mais je n'aime pas déranger. Didier lui dit : vous ne dérangez jamais. Et puis, vous me recevez bien. Elle lui dit : c'est pas la même chose. Je suis un jeune homme charmant. Moi, je ne suis qu'une vieille femme sans importance. Elle lui dit : vous dites n'importe quoi. Ma mère est plus vieille que vous. Et je la trouve très jeune. Allez, venez. Mélusine le suit. Et lui dit : tout le monde nous regarde. Nous faisons un très beau couple. Elle lui dit : je suis habillée comme une veuve grecque. Tu parles comme je suis séduisante. Ton robe va ravir mieux que celle des autres. Je porte des robes beaucoup moins bien belles que la vôtre. Ah, voilà ma mère. Madame Dupin est une femme grande, mince, le regard très doux. Elle a les cheveux blonds, courts, porte une robe blanche avec des reflets gris.
qui lui disent « La voilà, elle est venue. »
Elle a dit à Mélusine « Je suis très heureuse. Cela fait si longtemps qu'on ne vous voit plus. » Elle l'embrasse et lui dit « Vous êtes l'amie de mon fils et l'on ne vous voit pas. » Et lui dit « Votre fils est l'ami du mien. Je suis heureuse de le voir. » Et d'être ami avec lui. Et puis, vous savez, je n'aime pas sortir. Elle lui dit, vous vivez comme une veuve. Il faut vivre, ma chérie. Et lui dit, il y a beaucoup de monde ce soir. Elle lui fait, oui, que des intimes. Venez. Ils vont prendre des coupes de champagne. Elle l'amène au buffet prendre une coupe. Tout en discutant, les deux femmes étaient liées. Mélusine voit, pas très loin d'eux, Beaulieu. Elle est furieuse et dit, « Je n'aime pas du tout cet homme. » La mère de Didier par lui et dit, « Je suis navré. » Beaulieu parle fort. C'est un homme plutôt gros, chaud, ridicule. En blanc, ne m'aime pas. Il s'est entiché de ce clip recourtois. Vous savez, ce jeune blanc-bec. Eh bien, figurez-vous qu'il travaille au siège. Oui, enfin, dans leur service. Une fille, bien entendu, est toute blanche. Son fils est à Paris, au siège, chez Franc-Blanc. Son Cliff est à Paris. Beaulieu s'est retiré avec l'homme. La mère de Didier, qui voit Mélusine toute blanche, lui demande « Vous n'êtes pas bien. C'est cette honte qui vous a retourné. Je suis navré. » Elle lui dit « Je n'ai rien. Il a parlé de mon fils. Il a dit qu'il était à Paris. » Et qui travaillait chez Franc-Blanc. Cela fait plus de 2 ans, presque 3 ans, que j'ai pas eu de ses nouvelles. Et là, il lui demande, vous êtes sûr d'avoir bien compris? Elle lui dit, oui. Elle lui demande, que comptez-vous faire? Elle lui dit, j'irai le voir. Et elle lui dit,
j'aimerais s'y aller avec vous. Mais il lui demande,
puis-je aller m'allonger un moment ou m'asseoir?
Dans la main s'asseoir.
Puis, petit à petit, elle se reprend et se sent toute heureuse d'avoir eu des nouvelles de son fils et qu'il est vivant. Et elle danse même avec Didier. Oui. Elle danse même avec Didier. La soirée se passe agréablement bien. Elle ne voit plus Beaulieu. Lorsqu'elle les quitte, Didier lui demande « Partez à Paris quand ?» Elle lui dit « Après-demain !» Il lui dit « Vous direz que je pense beaucoup à lui ?» Oui, bien sûr. La de Didier l'embrasse et lui dit « Bonne chance !» Elle prépare son voyage. Commande par téléphone ses billets pour le train pour Paris. Ses billets parce qu'il faudra qu'elle prenne plusieurs trains. Elle fait ses valises et part au petit matin. Le chauffeur l'amène à la gare. Là, elle a pris le train pour Paris en première classe. Elle a de la chance, il n'y a personne dans le wagon. Le trajet est long, très long. Dans le compartiment, une femme petite, l'air revêche, cheveux coupés court à la Jeanne d'Arc, chantant. Elle porte un partant vert et un pantalon noir. Un sac à main de voyage marron. Elle s'assoit en face de Billy et lui demande : la place est libre, j'espère. Billy lui dit : oui, madame. Ah, le train se met en route avec 2 minutes de retard. C'est un comble tout ça. Je vais à Lyon, moi, pour voir mon cousin, un gentil garçon. Il travaille à la ville. Service propreté. Beaucoup de poubelles. Moi, je suis concierge. Je suis concierge de mère en fille depuis des générations. Madame Terrier. Je suis allé au congrès des concierges de France. J'ai dit que c'était un comble. Dans mon allée de mon immeuble, les gens ne donnent pas pour les étrennes. Je vais voir mon petit Pierrot. Qui lui aussi a des ennuis. Son voisin du dessous te comporte très mal. Ne supporte pas qu'il marche le bruit qu'il fait tout le temps. Il fait une grande dépression. Mon ami Pierrot. Mon cousin, parce qu'il ne peut pas faire son acte sexuel sans que l'autre le sache. Et ça crie, celui du dessus. C'est un comble tout ça. Et vous ? Il lui dit, moi rien, tout va bien. Oh, vous en avez de la chance, vous. Moi, j'ai des temps d'ennui avec le chauffeur du 61 qui est toujours en retard. Et... fait entrer dans le cas les alimes qui je suis sûr ne payent pas. C'est un con tout ça. Mais l'usine se sent fatiguée d'entendre cette femme qui dit des choses qui ne l'intéressent pas. Elle aimerait c'est être ailleurs. Mais l'autre continue à parler. Vient l'heure du repas. Il se lève et lui dit, je vais au wagon restaurant. Il se lève et lui dit, viens, moi aussi, pour une fois. Nous y allons ensemble. La pauvre usine y va avec cette femme. Elles se mettent à la même table. La Terrier n'a fait que de rouspéter en disant que c'était pas bon, trop cher, des portions pas assez importantes. ça a été un véritable calvaire. Mais l'usine a eu cette femme jusqu'à Lyon. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Kerr. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.